Bonjour tout le monde et bienvenue sur Radio Basalte, la radio des élèves du collège de Pierrefort. C'est Histoire d'en parler, l'émission d'histoire des élèves du collège. Bonjour, je suis Louis et dans notre émission aujourd'hui, le massacre des Italiens à Aigues-Mortes les 16 et 17 août 1893. Cet événement est peu connu et c'est pourtant le plus sanglant pogrom qui ait connu la France. À l'époque, on a même parlé par euphémisme de rixe. De quoi s'agit-il? Pour mieux comprendre, on a fait appel à deux jeunes spécialistes. Bonjour Roman, peux-tu nous donner le contexte historique?
Bonjour Louis, on ne peut comprendre ce drame sans le contexte. D'abord, de nombreux pays d'Europe sont touchés par une crise économique et le chômage est haut. Nombre d'ouvriers s'appauvrissent. Certains sont dans une très grande précarité. À ce contexte économique, il faut ajouter un contexte politique particulier. Les tensions internationales sont fortes, particulièrement entre l'Italie et la France. La Troisième République française est un régime relativement jeune et plutôt isolé diplomatiquement. Enfin, la fin du XIXe siècle est aussi le temps du développement de la presse de masse, qui développe et banalise un discours nationaliste, anti-immigrant et parfois xénophobe.
Roman, vous nous avez donné le contexte général. Anna, pouvez-vous nous expliquer le contexte local? Qu'en est-il à Aigues-Mortes?
Bonjour à tous. Sur place, la Compagnie des Salins du Midi est la principale entreprise. Procédée au levage et au battage du sel dans les marais salants entourant la ville d'Aigues-Mortes, elle engage chaque été des centaines d'ouvriers saisonniers.
Qui sont les travailleurs?
Les Aigues-Mortais sont souvent les contremaîtres. Parmi les ouvriers saisonniers, très peu sont en fait des locaux. La plupart sont des journaliers français, mobiles et peu qualifiés. Ils sont dénommés trimards, un qualificatif qui réfère, entre autres, à leurs conditions de vagabonds. D'autres sont des groupes de travailleurs venus des campagnes pauvres des Cévennes, nommés les Ardéchois. Beaucoup sont également des travailleurs étrangers, généralement d'origine italienne, plus spécifiquement piémontaise, la région frontalière fournissant les plus importants contingents ouvriers. Le travail est harassant, les tensions sont fréquentes.
Roman, que se passe-t-il les 16 et 17 août 1893?
Les 16 et 17 août 1893, à la suite d'une émeute contre les ouvriers piémontais, 8 Italiens vont mourir. 15 sont portés disparus et une centaine est blessée.
Pour retranscrire cet événement, nous avons écrit des lettres fictives d'Italiens présents en France avant le drame, au moment du drame, après le drame.
Elles ont été écrites par Brice, Anna, Robinson, Roman, Chloé, Timéo, Armand et Louis. Les premières lettres décrivent les conditions de travail dans les marais salants.
Lecture de la lettre de Guillermo à son fils, le 10 août 1893. Mon cher fils, je t'écris cette lettre pour te donner des nouvelles de mon parcours. J'espère que tu prends soin de ta mère et de ta sœur. Dis-leur que je vais bien et que je pense tout le temps à elles. Quant à toi, je suis fier que tu sois l'homme de la maison à présent. Je prie pour que cette lettre vous parvienne, en main propre, malgré la difficulté d'envoyer du courrier en Italie. Peu après mon départ de la maison, j'ai pris la route pour le port de Naples. 3 jours ont été nécessaires pour parvenir à Marseille. À partir de Marseille, j'ai d'abord été embauché par un paysan qui cherchait de l'aide à la ferme. Cela dura 3 semaines, mais il dut me renvoyer, ne pouvant plus me payer. La crise économique est forte. Il me conseilla ensuite d'aller chercher du travail dans les marais salants à Aigues-Mortes, là où plusieurs Italiens travaillaient déjà. À mon arrivée, je fus embauché pour un total de 5 lire par jour. C'est un salaire correct. Le lendemain, je partis avec une équipe de piémontais composée de 150 ouvriers pour la plupart italiens. Elle était dirigée par un bel. Dès mon premier jour, je vis les conditions exécrables et dures que je vais devoir endurer. On travaille depuis 5h du matin jusqu'à 19h, avec quelques pauses. Pour manger, on dépense 1,20 lire. Pour du pain, du café à 8h, de la daube et de la soupe à midi. Le soir, on dort dans des cabanes avec de la paille en guise de lit. Malgré qu'on soit nourri et logé, les conditions de travail sont insoutenables. On manque d'eau, le soleil est brûlant, les moustiques nous pourchassent à longueur de journée, on bat le sel à la pioche et on charge les brouettes à la pelle pour ensuite les pousser sur des rampes de bois.
C'est donc dans ces conditions harassantes que les esprits s'échauffent. Pour continuer, lecture de la lettre d'Enzo à son frère envoyée le 15 août, un jour avant le massacre.
Mon cher frère, il est 22h, heure du coucher, mon groupe et moi partons dormir un peu. 5h du matin, nous sommes réveillés et nous repartons travailler. Nous sommes déjà épuisés, mais nous tenons car nous connaissons les conditions. Tous les travailleurs sont exténués. Certains Français, les trimards, ne savent pas travailler. Ils nous retardent et les esprits s'échauffent. Ils nous font perdre de l'argent. Certains d'entre eux ne sont pas toujours embauchés au matin. Ils nous détestent. La bagarre arrive. Enzo.
Enzo, comme Guillermo, expose la dureté de ce travail saisonnier, mais aussi l'expérience des travailleurs piémontais. Comme le dit Enzo, la bagarre arrive. Pour comprendre les événements, lecture de trois lettres.
Lettre d'Agostino Galliana à son ami Ferruccio le 18 août 1893. Mon voyage vers la France n'a pas été si facile. Après Marseille, je suis parti travailler à Aigues-Mortes, où d'autres hommes de notre village viennent récolter le sel. Je me suis retrouvé avec des Ardéchois, des Trimards et quelques autres piémontais. Nos contremaîtres viennent d'Aigues-Mortes. Au départ, tout se passait bien, les cadences étaient difficiles, on ne se comprenait pas tellement, mais assez pour travailler. Petit à petit, on voyait bien que notre présence les dérangeait. Une atmosphère tendue s'installa sur le chantier. Les Trimards ne suivaient pas la cadence. Nous perdions sur notre salaire. Les esprits s'échauffent. Plusieurs querelles éclatent. Un des nôtres lave son pantalon dans l'eau potable, alors que la chaleur est accablante. Les ouvriers italiens, munis de pelles et bâtons, blessent légèrement quatre Français. Le calme rétablit les ouvriers français, vont à Aigues-Mortes, demander du renfort et répandre la fausse nouvelle que trois Français avaient été tués. Une véritable chasse à l'homme est alors déchaînée dans les rues. On nous crie « À bas les ritales, à bas les ours !» Je ne sais pas encore comment je puis m'en sortir. Rapporte la nouvelle à la famille, je vais bien. Francesco.
Lettre d'Alejandro à sa fiancée Maria, 24 août 1893. Lorsque tu liras ces mots, Maria, sois contente de les voir car je suis encore vivant. Comme tu le sais, j'ai été embauchée à Aigues-Mortes, aux Salines. Nous dormions dans des cabanes à même le sol. Le travail était harassant, mais je me trouvais avec le jeune fils de 20 ans des Carolini. Sa bonne humeur raccourcissait les dures journées de labeur. Si tu me voyais, ma pauvre Maria, tu ne me reconnaîtrais pas. Mon corps est amaigri. Le 16 août, une dispute entre les Trimards et certains gars de chez nous éclata. Nous avions entendu parler d'Italiens pourchassés à Aigues-Mortes, mais nous étions loin sur les Salines et nous n'avions pas écouté les bruits. La situation s'envenimait pourtant et le lendemain, à l'aube, je suis brusquement réveillée et tous les ouvriers piémontais sont rassemblés sur les Salines par les autorités. Le capitaine, Cabeille, nous expliqua qu'un terrible drame avait eu lieu à la boulangerie d'Aigues-Mortes. Mon sang d'Italien commençait à bouillir dans mes veines. Nous, les piémontais, nous étions accusés à tort et traités injustement. Au loin, j'observais une foule noire qui s'approchait lentement comme une coulée de lave. À mes côtés, je sentais le fils Carolini qui tremblait et cherchait désespérément son père parmi nous. Les émeutiers armés de pelles, de fusils se rapprochaient. Ils chantaient la Marseillaise pour venir nous tuer. Alors, les autorités ont commencé à nous déplacer vers la gare d'Aigues-Mortes. Une trentaine de minutes plus tard, les deux foules se sont touchées et c'est à ce moment-là que le terrible massacre a commencé. J'ai vu le sang, Maria. J'ai entendu les hommes crier « À bas les ritales !» J'ai connu l'horreur d'un massacre. Lorsque je me suis réveillée, j'étais allongée dans un lit d'infirmerie. Je ne sais comment on m'a retrouvée. Je sais juste que 8 piémontais ont été tués et qu'il y a eu une centaine de blessés et des disparus dont le fils Carolini. Je m'inquiète tellement, Maria. En attendant, sois fière d'être piémontaise, ton cher fiancé Alejandro.
Lettre de Leonardo à Alessandro à 7, le 15 septembre 1893. Bonsoir Alessandro, je suis partie il y a déjà 2 ans de chez nous. J'ai fait plusieurs travaux, puis je me suis retrouvée à travailler à Aigues-Mortes. Au mois d'août dernier, je travaillais dans les salines, je travaillais beaucoup et dur. Mais depuis les événements d'Aigues-Mortes, j'ai fui les marais salants. Le matin du 16 août, nous nous sommes moqués des Trimards car ils sont si pauvres et si faibles qu'ils ne peuvent pas endurer le travail. Dans l'après-midi, nous avons été assiégés dans la boulangerie Fontaine, là où j'étais partie me réfugier. La haine partout, le désastre a continué encore toute la nuit. Le matin du 17 août, nous avons été évacués de la boulangerie vers la gare par le maire et ses hommes. On m'a dit que les Français ont pris d'assaut les ouvriers, les ritales comme ils nous appelaient, restés sur les salines et les gendarmes continuent d'escorter les cibles vers la gare. Aujourd'hui encore, ils continuent de nous chasser de la région. C'est absolument affreux, la peur ne me quitte plus, j'espère revenir au plus vite. Leonardo.
Ces trois lettres nous permettent de comprendre le déroulé des faits sur deux jours. Les autorités locales ont été dépassées. La violence qui s'est déchaînée ne peut être que comprise en tenant compte de la crise économique, des conditions de travail, de l'unité de la communauté locale qui s'est sentie à tort attaquée et des discours xénophobes qui sont répandus par la presse. Le massacre est repris dans toute la presse. Il a du retentissement en Italie, en France et même aux États-Unis ou en Angleterre. Maintenant, trois nouvelles lettres vont être lues sur le temps d'après. Celle d'un journaliste et de deux ouvriers.
Lecture d'une lettre d'un journaliste italien, Salvatore, à un ami dans le mois qui suit les faits. Mon cher ami, je t'écris cette lettre depuis mon appartement en France, celui dont je t'ai parlé lors de notre dernier rendez-vous. Comme j'ai pu te le dire, je suis dans le sud, près de Sète, afin de rédiger un article sur le massacre des 16 et 17 août. Maintenant, il faut que je te raconte ce que je vois depuis mon arrivée. La haine contre les Italiens se répand dans les journaux français. Je suppose que tu as entendu parler de ces événements par la presse. Et le seul conseil que je puisse te donner est de ne pas croire les journaux français, qui ont été prompts à euphéminiser ce chaos. Pour parler d'un massacre, ils parlent d'une rixe, d'une bagarre, et accusent les Italiens de l'avoir provoqué. Certains écrivent que des Français sont morts, c'est faux, et j'en frémis de colère. Nos journaux ont aussi exagéré, notamment le nombre de morts. À cette heure, je me demande si cet événement ne va pas déclencher la guerre entre nos deux pays. Je dois travailler et rentrer en Italie dans peu de temps, une fois que j'aurai terminé de rédiger proprement mon article. D'ici là, prends soin de toi. J'espère pouvoir bientôt m'entretenir avec toi de vive voix. Salvatore.
Lecture de la lettre de Pablo Romano à sa famille en décembre 1893. J'ai immigré en France car je ne trouvais pas de métier en Italie. Les conditions dans mon métier sont rudes et j'ai plusieurs connaissances de notre région. Ils m'ont raconté les événements d'Aigues-Mortes, notamment un certain Giovanni, peu avant des Français me lisant les journaux m'insulter de sale rital, car selon certains journaux, les Italiens étaient la cause de leur propre massacre. Je ne pouvais pas en croire mes oreilles. Giovanni m'a dit que c'était le plus gros massacre qu'il ait vu de sa vie. Il estime qu'une dizaine de morts est le minimum. Il pense que plus d'une centaine d'ouvriers ont été blessés et certains très durement. Il m'a parlé de coups de bâton, de noyades dans les marais et de coups de fusil. C'est affreux. Le procès est en train de s'ouvrir à Angoulême. J'espère que justice sera faite. Au final, je suis bien content de ne pas avoir vécu cet événement. À très bientôt, Pablo.
Lecture de la lettre d'un ouvrier, Francesco Eugenio, le 30 janvier 1894. Bonjour Eugenio, c'est Francesco. J'ai émigré en France. Je suis ouvrier agricole dans le sud aux alentours d'Arles. C'est temporaire, je compte bien revenir en Italie. Le climat de tension est très lourd. Avant de partir, je connaissais par les journaux italiens les terribles événements d'Aigues-Mortes, des 16 au 17 août 1893. Il a été à la une de l'actualité pendant plus d'une semaine. Tu as dû toi aussi en entendre parler. Quelle sauvagerie! L'affaire d'Aigues-Mortes a fait de nouveau l'actualité en décembre, lors du procès alors que la culpabilité des 16 Français coupables avait été établie clairement par la justice. Le jury a cédé à cause de la pression du peuple français. Ce verdict est un scandale. Il n'y a pas de justice. Pire encore, un Italien, heureusement innocenté, a fait être condamné.
Suite à cette horreur, un procès a bien lieu à Angoulême, dont le verdict est rendu le 30 décembre 1893. Tous les coupables avérés sont acquittés. Jurés ont cédé sous la pression de l'opinion publique. Le massacre des Italiens d'Aigues-Mortes se termine par un scandale judiciaire. Malgré son ampleur, l'événement va être vite oublié.
Voici le travail réalisé par une classe de 4e à Pierrefort du collège des Gorges de la Truyère. Cette fiction historique essaie de reconstituer les événements réels depuis août 1893 jusqu'en janvier 1894 et de faire émerger un événement tragique oublié de la mémoire française. Merci d'avoir écouté l'émission Histoire d'en parler, le récit aujourd'hui fait par les 4e sur Radio Basalte du collège de Pierrefort.